The crane is a bird that refuses to adapt at any cost. What do you think of this? What does comfort mean to you? Is it a form of rightness? How do you get by otherwise?
Bonjour à toutes et à tous. Il est midi dans les prairies des Dakotas. Il fait 39 degrés. Le vent souffle en rafale à 60 km/h vers le sud-ouest. En ce moment, les grues nichent dans le parc Wood Buffalo, au Canada, avant de s'envoler à l'automne en direction du sud et de passer par là. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle émission idoine intitulée « Conditions cosmiques et mouvements perpétuels ». À travers les lignes, à travers les ondes, avec Sissi Angcho. Nous sommes Coralie Guillaubé,
Éléonore Panos-Avaroni,
Pascal Rioux.
Originaire de South Richmond, Virginie, Sissi Angcho est née dans les années Eisenhower et vit aujourd'hui dans les Dakotas. Sissi est dotée de pouces remarquables, notamment par leur taille, emblème d'émancipation et d'inadaptation. Grâce à eux, elle a acquis une grande liberté et a régné sur l'autostop, art entendu non pas comme moyen, mais comme acte essentiel. Elle a ainsi construit une vision autostopienne du monde, faite de rythmes, de nuances, de tension spatiale. Une habitation poétique et magique de l'espace et du temps. À la déclaration de Gustave Courbet, « Je suis mon propre gouvernement », Sissi substituerait sans doute « Soyez votre propre fête ».
Bonjour Sissi.
Bonjour.
L'expérience fondatrice dans ta vie a été de faire de l'autostop. Tes pouces sont particulièrement grands et ils ont consisté en quelque sorte en une invitation. Pour commencer, peux-tu nous parler de la manière dont cette pratique de l'autostop t'a permis de reconfigurer ton rapport à l'espace et au temps ? Et comment le fait d'être contrainte à arrêter pendant une période de ta vie t'a affecté ?
On ne croyait pas que je manque de modestie, mais je suis vraiment la meilleure. Quand mes mains ont la forme et que j'ai la cadence qu'il faut, je suis la meilleure qui puisse exister, qui a jamais existé et qui existera jamais. Quand j'étais plus jeune, avant cette mise à pied qui m'a pratiquement coulée, j'ai fait du stop pendant 127 heures, sans manger, ni dormir, traversant le continent dans les deux sens en 6 jours, trempant mes pouces dans les deux océans et me faisant prendre après minuit sur des autoroutes non éclairées, tant j'avais de dons, de persuasion, de rythme. J'établissais des records et les pulvérisais immédiatement. J'allais plus loin et plus vite que n'importe quel autre stoppeur auparavant ou depuis. Voilà, mais avec l'expérience, je me préoccupais davantage des subtilités et des nuances de style. Le temps en termes de kilomètres-heure cessait de m'intéresser et je lui préférais le temps géologiquement lent, ancien, vaste. Le jour, je dormais dans les fossés et derrière les buissons, sortant vers le soir comme le premier poisson qui rampa hors de l'océan, arrêtant les voitures les unes après les autres pour souvent refuser leur offre ou me faisant déposé au bout de 2 kilomètres pour recommencer. J'effaçais l'autoroute de son contexte temporel. Passerelles, échangeurs et rampes de sortie firent pour moi figure de ruine maya. Sans destination, sans fin, ma course était souvent silencieuse et vide. J'atteignis l'abstraction, la pureté. Puis je me mis à juxtaposer de lents et longs trajets à des courses courtes et furieusement rapides, jusqu'à ce que je compose des mélodies, des concertos, d'entières symphonies du stop. Lorsque le pauvre Jacques Kerouac a eu vent de cela, il s'est saoulé pendant une semaine. En fait, j'enrichis le stop de dimensions que les autres ne comprenaient même pas. À l'ère de l'automobile, et rien n'a davantage façonné notre culture que la voiture, nous avons eu beaucoup de grands conducteurs, mais une seule grande passagère. J'ai fait de l'auto et du stop dans tous les états du pays, et le reste est au milieu de tempêtes de neige et sous des arcs-en-ciel, dans des déserts et dans les cités, à reculons et de côté, en haut et en bas des escaliers, et dans la chambre où ma belle est couchée. Il n'était aucune route qui ne s'attendit à me voir. Les champs de marguerites saluaient et les pompes à essence gargouillaient quand je passais. Chaque vache baissait vers moi en meuglant ses pies gonflées. Avec moi, quelque chose de différent et de profond, de lumineux et d'encourageant est arrivé dans la pratique de l'autostop. Je suis l'esprit et le cœur de l'autostop. J'en suis le cortex et la moelle. Je suis son fondement et son apogée. J'en suis le joyau et la fine fleur. Et quand je suis vraiment en train d'avancer, que j'arrête une voiture et une autre, que je vais librement, si clairement, si délicatement que même les maniaques sexuels et les flics ne peuvent que cligner de l'œil et me laisser passer, alors j'incarne les rythmes de l'univers. Je sens ce que c'est qu'être l'univers. Je suis en état de grâce. Vous êtes en droit de prétendre que je dispose d'un avantage injuste. Mais pas plus que Nijinsky. Sa réputation de plus incomparable danseur de l'histoire n'est pas altérée par le fait que ses pieds étaient anormaux, ayant une structure osseuse de pattes d'oiseau. La nature façonna Nijinsky pour danser et moi pour diriger la circulation. Ah, et à propos d'oiseaux, on dit qu'ils sont stupides, mais une fois, moi, j'ai appris à une perruche à faire du stop. Elle disait pas un mot, mais c'était une dingue de stop. Je la laissais nous trouver des voitures à travers tout l'Ouest. Puis un jour, elle m'indiqua qu'elle voulait tenter sa chance toute seule. Je la laissais partir et la première voiture qu'elle arrêta transportait deux châssis à moi. Pff. Et peut-être que les oiseaux sont stupides après tout.
Mais tes pousses, comment est-ce que tu les entretiens ?
Bah, y a pas à dire. Il faut que je fasse un peu de stop chaque jour. C'est comme un musicien qui fait ses gammes. Si je ne m'entraîne pas, je perds mon rythme, mes pouces se raidissent et me font mal.
Tes pouces sont magiques et viennent comme un caillou dans une chaussure titiller la perception, questionner l'ordre des choses.
J'y entends rien à ces histoires d'ordre et de symétrie. Moi, j'ai plaqué le lycée et j'appartiens à une race, la race des pauvres prolos blancs, qui n'a rien fait d'autre pendant 10 siècles que ramasser des cailloux, arracher des mauvaises herbes, suer dans les usines et partir à la guerre chaque fois qu'on le lui disait. Et à chaque génération, le lopin de patates rapetissait. Moi, j'ai passé du temps dans les bibliothèques, pas entièrement à dormir, et j'ai appris que chaque peuple civilisé de l'histoire a traité par la discrimination ses membres anormaux. Schizophrénie est un terme de la civilisation occidentale, tout comme sorcière et inadaptée. Des termes utilisés pour rationaliser les punitions cruelles et étranges distribuées à ceux qui sortent de l'ordinaire. Pourtant, les tribus d'Indiens américains, comme vous devriez le savoir, traitent leurs anormaux comme des êtres particuliers. Leurs schizoïdes étaient reconnus comme possédant un don, le pouvoir de vision, et on les révérait pour cela. Les malformés étaient également tenus comme les préférés du grand esprit, comme des accidents rompant avec bonheur la monotonie de la régularité anatomique. Et tout le monde les aimait, se plaisait avec eux et leur rendait grâce.
Et alors, du coup, sans parler d'ordre des choses, ta pratique de l'autostop est-elle une pratique du monde, une manière d'habiter ?
Habiter ? Non, je n'habite pas. Je bouge sans arrêt, je me déplace.
Est-ce que tes pouces sont un emblème ou un repère autour duquel ton existence s'est construite ?
Peut-être que mes pouces ont connu la poésie et les vôtres pas. Ou peut-être que c'est simplement que vous avez des pouces, et moi, je suis des pouces.
Est-ce que tu souhaiterais transmettre quelque chose de cette expérience ?
Le Shintok dit que certains courent après les sages comme d'autres courent après l'or. Il dit que nous avons produit une génération de mendiants spirituels faisant la manche pour quelques pièces de sagesse, frappant comme des clochards à toutes les portes fermées. Il dit que si un vieux s'installe dans une cabane ou une grotte et se laisse pousser la barbe, les gens s'attrouperont de toute la région rien que pour lire ses pancartes « Interdit d'entrer ».
Ton rapport à l'autostop fait penser à l'équipée qui traversa le Pacifique sur le radeau Kon-Tiki, du Pérou à la Polynésie française en 1947. Revenu à un mode de vie élémentaire, Thor Heyerdahl et ses compagnons se sont réappropriés leurs gestes et le monde. Ils ont construit leur radeau selon les techniques des ancêtres des Incas. Pendant la traversée, ils observaient factuellement le monde, dans une distance et un apprentissage permanent. Ils se sentaient vivre tout en s'extrayant du temps. C'était au milieu du XXe siècle, mais ça aurait pu être n'importe quand. Et ce n'est pas tant l'arrivée qui comptait que la manière d'arriver.
Ce qu'il y a, c'est que mon but à moi ne ressemble pas à celui de la plupart des gens. Il y a un tas de gens sans but sur la route, c'est sûr. Des gens qui vont en stop d'une bringue à une autre, sans répit, en cherchant quelque chose... En cherchant l'Amérique, comme le dit Jack Kerouac, ou en cherchant eux-mêmes, ou en cherchant un lien entre l'Amérique et eux. Mais moi, je ne cherche rien. J'ai trouvé quelque chose. L'autostop.
Et dans ta pratique de l'autostop, du coup, en quoi la solitude est importante ?
En étant seule, j'ai pu... danser sur le grand tempo, danser la quatrième dimension et faire perdre la tête à la notion de transport. Seulement, tout le monde s'en fichait. Bon, peut-être qu'une douzaine d'âmes désespérées eut l'intuition que j'étais plus que la championne du monde, mais personne d'autre. Bon, et alors, je croyais vraiment que ce que j'accomplissais pourrait élever l'esprit de l'humanité, de même qu'une comète emplit les gens de joie, sans raison logique ou féconde, lorsqu'elle traverse le ciel. S'ils avaient fait attention, ils n'en ont rien fait et c'est très bien comme ça, parce qu'en vérité, je faisais de l'autostop pour moi-même. Moi-même et les grands pouvoirs des vents.
Depuis de nombreuses années, tes activités ont changé. Tu vis dans les Dakotas, plus précisément dans la grotte Siwash. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de ce paysage pour toi ?
Vous savez, le Shintok dit que ces plaines existent au bord du sens, dans une zone située entre le sens et quelque chose de si grand que ça n'a pas de sens.
Et d'ailleurs, le Shintok, comme il se présente lui-même, a été une rencontre charnière dans ta trajectoire. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cet être que certains, certaines ont pris pour un sage, d'autres pour un fou, et plus précisément sur son rapport au temps ?
Mais voyez-vous, il faut comprendre que le Shintok ne parle pas des masses. Il dit ce qu'il doit dire très vite, répétant ou expliquant rarement ce qu'il a dit. Il est plus enclin à rire ou à se gratter qu'à exposer des idées. Mais si je me pliais à ses idées et le laissais faire ce qu'il voulait avec moi, il partageait de fait certaines de ses pensées. Donc, je sais pas en quoi cela regarde le temps proprement dit, mais le Shintok voit la vie comme un réseau dynamique de communication et d'échanges s'étendant simultanément dans toutes les directions, le tout tenant par la tension qui existe entre les opposés. Il dit qu'il y a dans la nature de l'ordre, mais qu'il y a aussi du désordre. Et c'est l'équilibre des tensions entre ordre et désordre, entre les lois naturelles et le hasard naturel qui en empêche l'effondrement complet. C'est un paradoxe magnifique selon sa description. Personnellement, je sais pas.
Tu peux quand même un peu préciser.
L'homme civilisé n'a en tête que les lois qu'il découvre dans la nature et s'agrippe presque frénétiquement à l'ordre qu'il observe dans l'univers. Il a donc fondé sa symbolique et les modèles psychologiques grâce auxquels il espère comprendre son existence sur des observations, des lois et de l'ordre naturel, ses observations. Le temps du balancier est un temps mis en ordre, le temps d'un univers uniformément légiféré, le temps de la synthèse cyclique. Cela convient jusqu'à un certain point, mais le temps du balancier n'est pas tout le temps. Le temps du balancier ne rend pas compte des milliards de mouvements et d'actes de l'existence. La vie est tout à la fois cyclique et arbitraire. Et le temps du balancier ne concerne que la partie cyclique.
Oui, justement, dans la grotte Siwash, le Shintok a fabriqué une horloge qui exprime sa conception du temps. Comment est-ce que cette horloge est faite et comment est-ce qu'elle fonctionne ?
Bon sang, vous ne le croiriez pas, c'est qu'un tas de camelotes, des couvercles de poubelles, des vieux poêlons, des boîtes de saindoux et des pare-chocs rafistolés tous ensemble au fond de la grotte Siwash. Et ben, de temps à autre, ce fourbi se met à bouger. Une chauve-souris le heurte, un caillou tombe dessus, un courant d'air s'y prend, un bout de fil de fer tombe de rouille. Ou alors ça bouge sans aucune raison logique apparente et un morceau de l'engin frappe un autre bout. Ça fait bam ou zing. Et puis ce bam ou zing résonne dans toute la caverne. Ça peut faire bam ou zing 5 fois de suite. Et puis après, un arrêt. Ça le refait une fois. Ensuite, il se peut qu'on n'entende plus rien pendant un jour ou deux. Un mois, peut-être. Puis l'horloge sonne encore, disons deux fois. Et à la suite de quoi, ce pourrait être le silence pendant une année entière ou rien qu'une minute environ. Et puis, BAM ! Si fort qu'on est dans tous ces états. C'est comme ça que ça marche. Elle sonne librement, dinguement, à intervalles irréguliers.
Le Shintok a des positions radicales concernant la survie. Il explique que ce qui importe n'est pas tant de survivre que comment on survit. Il convoque pour cela la figure de la grue, oiseau libre, qui refuse de s'adapter à tout prix. Quelle est ta position à ce sujet ?
La grue. La grue pénètre dans votre esprit dès l'instant où elle pénètre vos sens. C'est un monstre du ciel parfaitement rayonnant et je suis incapable de la décrire. Les Indiens Paiutés appelaient la grue Kodududududu. Sisdu. Kodududududu. Non, il n'y a qu'une chose qui vaille mieux que le bonheur dans cette vie. C'est la liberté. Il est plus important d'être libre que d'être heureux.
Ta conception de l'individu dans le monde fait penser au philosophe norvégien Erni Næss. Il écrit que le soi part de nous-mêmes et nous déborde infiniment jusqu'à inclure le tout.
Tout dépend de la façon dont on voit les choses. Comme le dit le docteur Robbins, on possède non seulement la capacité de percevoir le monde, mais aussi celle de modifier la perception qu'on en a. Ou plus simplement, on peut changer les choses par la manière dont on les envisage.
La situation internationale est désespérée aujourd'hui, mais est-ce que ta vie est quand même douce ? Est-ce que les cowgirls sont encore dans le voisinage de la grotte Siwash ? Et puis, trouves-tu toujours ton équilibre dans l'instabilité et la disponibilité ?
N'importe qui peut être paisible s'il ou elle vit dans un environnement paisible. C'est bien plus difficile, bien plus éprouvant, mais gratifiant, d'être en paix dans un monde si malade de cupidité et de peur, si déformé par les appétits pathologiques des égos narcissiques, qu'il est en réel danger d'autodestruction. Je lutte, bien sûr, mais dans mon âme, je reste en paix car je reconnais que toute l'existence est un théâtre cosmique, un spectacle grandiose, dingue et éphémère dans lequel chacun et chacune de nous doit jouer son rôle avec enthousiasme et style. Et oui, il y a encore des cowgirls dans les collines du Dakota, mais aujourd'hui, même si nous ne les reconnaissons peut-être pas, il y a des cowgirls partout, y compris en Corée et en France. Vous les entendez ? Elle sourit.
Cette émission est une interprétation du magazine Idoane et Sissi Angcho, paru en 2016, réalisée aujourd'hui en direct du studio de la Villette, avec à la technique Paul et avec, merci beaucoup, Marie Champion. Nous remercions aussi vivement Tom Robbins pour sa complicité et sa confiance. Et nous remercions les Cowgirls et leur vague à l'âme d'exister.
The crane is a bird that refuses to adapt at any cost. What do you think of this? What does comfort mean to you? Is it a form of rightness? How do you get by otherwise? Someday deep into the funnel of love.